voix nue. Toute cette semaine, en hommage à Didier Lockwood récemment disparu, nous réécoutons sa rencontre avec Monette Berthommier, enregistrée en 2007.
Didier Lockwood, on peut dire que vous avez été un enfant prodige et ça a marché très tôt la musique pour vous.
Un enfant prodige, non, je n'irai pas jusque-là. Je dirais simplement que j'ai bénéficié d'un environnement familial extrêmement favorable à l'éclosion d'une carrière musicale, un père violoniste, et puis mon frère Francis Lockwood, qui est un pianiste réputé, pianiste de jazz, et qui a commencé très tôt, donc en tant que frère aîné, il m'a aussi beaucoup, beaucoup influencé.
Et alors, revenons à l'enfance, elle se déroulait à Calais.
Oui, je suis né à Calais, on ne peut pas aller plus au nord que Calais. Et Calais, c'est vrai, une ville qui était, on va dire, un petit peu au bout du monde, en tout cas au bout de la France. C'était une ville dans les années, quand je suis né à Calais, c'était donc dans les années 50, 56, 60. Calais était une ville qui se relevait difficilement de la guerre et il y avait des gros problèmes, un gros problème social, problème beaucoup de chômage et mon père qui était instituteur aussi était quelqu'un qui participait énormément à essayer de soutenir en tout cas ces populations qui étaient très touchées par les problèmes économiques à l'époque.
Il y avait donc dans la maison des Lockwood toute une activité musicale, artistique, on peut dire, puisqu'il y avait plusieurs activités comme ça, artistiques, entre votre mère et votre père, et votre frère, et vous-même.
Oui, tout à fait. Alors, ma mère, artiste peintre, m'a beaucoup aussi influencé dans mon éducation artistique. Et surtout, elle m'a montré qu'on ne devenait pas simplement un musicien, mais qu'on devait devenir aussi globalement un artiste. Et que, au-delà de tout ça, mon père, avec sa philosophie, très, très philosophe, mon père, m'a appris aussi qu'au-delà de l'artiste, il y avait un homme et qu'on devait essayer de devenir, le meilleur possible. Et c'est vrai que cette éducation qui s'est faite à la fois dans un milieu social très modeste, et aussi dans de multiples activités, puisque mon père était un boulimique de l'action, et il était non seulement musicien et instituteur aussi, mais il s'occupait d'un tas d'associations. Il était président du club de natation, donc j'ai fait de la natation à haut niveau. Et c'est vrai qu'on n'avait pas le temps de s'ennuyer puisque les horaires commençaient à 7h moins le quart le matin et on terminait souvent vers les 9h ou 10h du soir et on n'avait pas eu le temps de souffler. J'ai un souvenir de mon enfance en tout cas, même si parfois c'était fatigant, c'était un petit peu difficile, mais extraordinairement riche. Et c'est quelque chose qui a été déterminant pour la suite de ma vie.
Il y avait parfois incompatibilité entre le sport et le violon. Vous racontez des accidents.
Oui, naturellement, mais il y a incompatibilité avec le sport, puisque le sport peut nous mettre en danger physiquement. Mais c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de corrélations entre la musique, l'art plastique et le sport. Si on prend des paramètres comme le rythme, quand j'étais obligé de nager, par exemple, et de nager en tempo, puisqu'on était obligé de respecter des temps très précis par longueur de bassin, donc on devait penser à un tempo comme un métronome. Et donc ça avait une relation extrêmement proche avec mon travail musical. Mais aussi le sport a ses dangers et c'est comme ça que j'ai eu un accident grave en jouant au volleyball et en me cassant le bras et j'ai été dans l'impossibilité de jouer mon violon pendant 8 mois. Mais au bout du compte, c'est vrai que ces 8 mois d'arrêt de mes études classiques et académiques musicales m'ont fait et m'ont donné la possibilité de découvrir une autre musique et de me réhabiliter avec une approche musicale instinctive que je n'avais pas eue auparavant lorsque j'avais commencé à apprendre la musique au conservatoire.
C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai dû quitter mes partitions puisque je ne pouvais plus jouer le répertoire, que ce soit mes sonates, les partitas de Bach ou mes concertos. J'avais 13 ans, hein, donc tout d'un coup, j'avais une furieuse envie d'improviser comme le faisait si bien mon frère, mais j'étais incapable d'inventer moi-même une note sans partition. Et en fait, j'étais un aveugle de la musique. Un sourd et je me suis aperçu que il fallait rétablir une relation directe entre l'oreille et mon instrument et il fallait pas que cette relation passe par la vue et la lecture de signes qui symbolisent la musique. Eh bien, c'est ce que j'ai fait pendant 8 mois. Je n'ai plus joué du violon comme je le faisais d'habitude avec mon archet puisque je pouvais plus me servir de l'archet. Donc je me suis servi du violon comme une guitare et j'écoutais des disques et j'essayais de jouer donc avec ces disques en repérant les sons et les notes et les mélodies des disques et de les reproduire sur mon instrument. Donc je faisais la dictée musicale directement en fait sur l'instrument comme un perroquet. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque on m'a enlevé ce plâtre et que j'ai pu commencer à rejouer du violon normalement, tout était débloqué, je pouvais jouer, et je pouvais enfin improviser, je m'étais libéré de ce problème. Et c'est pour ça que aujourd'hui, et dans mon approche pédagogique, je prône vraiment cet enseignement, parce que j'ai pu le vérifier vraiment, c'est quelque chose qui marche. Et il faudrait rétablir une approche, hein, au niveau de l'enseignement, une approche beaucoup plus instinctive, intuitive, que celle qu'on a encore aujourd'hui l'habitude d'enseigner.
On parlera de votre école, mais plus en détail. Mais effectivement, cet épisode a été très fructueux finalement pour vous.
Oui, tout à fait. Je crois que dans la vie, j'ai pu remarquer que quand on a un problème se pose souvent parce qu'on a un déficit quelque part. Et qu'à travers ce problème, on peut avoir certainement l'occasion de grandir et de se fortifier et d'apprendre autre chose. Et j'ai la chance d'avoir le tempérament, un tempérament assez, je dirais, positivement fataliste pour pouvoir justement me servir de ces moments difficiles pour rebondir et pour apprendre de nouvelles choses. Et je crois que ce sont des épreuves que la vie nous donne pour simplement nous épanouir. Et si on arrive à être suffisamment clairvoyant et avoir peut-être suffisamment d'humilité pour les repérer et pour se dire qu'on va apprendre à travers eux, on grandit très très rapidement.
Il faut savoir saisir la chance des handicaps, c'est ça aussi ?
Tout à fait. Je crois que le problème pose une question le fait d'essayer de trouver une réponse à cette question fait qu'on découvre des choses, fait qu'on va peut-être développer des pensées qu'on n'aurait pas eues si cet accident n'avait pas eu lieu ou si ces problèmes ne nous avaient pas été posés. Thank you.
Votre récit autobiographique, Didier Lockwood, s'appelle Profession Jazzman, la vie improvisée. C'est publié chez Hachette. L'improvisation, c'est une chose que vous avez donc découverte à un moment donné, enfin découverte pour vous-même. Vous dites quelque part vers la fin de votre livre que l'improvisation, en fait, ce n'est qu'une succession d'erreurs dont on sait exploiter l'opportunité aussi. Quelque chose comme ça. Je vous cite pas exactement, hein, mais
oui, non, tout à fait. Alors ça, et ça, je le vérifie de plus en plus. Un musicien tente et tend toujours plutôt d'aller vers la perfection. J'ai remarqué que la perfection, c'était la mort. Parce que la perfection, la perfection, ça pourrait être Dieu. Dieu, on le connaît pas. Il nous donne des signes si on est croyant. J'ai remarqué qu'en fait, l'erreur et cette multitude de choses qui nous échappent fait partie totalement de notre personnalité. Et chacun a son type d'erreur. Chacun a son type d'erreur selon sa personnalité. Et je crois que il faut cultiver l'erreur. Il faut qu'elle soit maîtrisée. En tout cas, il faut qu'elle réponde directement à une émotion. J'ai remarqué que la personnalité, si on était tous parfaits, il n'y aurait plus de personnalité, puisque la perfection, dans son concept, est unique. Donc, ce qui fait qu'on va repérer quelqu'un, par exemple un chanteur, c'est parce que il a un timbre spécifique, qui pourrait être une erreur, puisque il a une voix peut-être un peu trop nasale, une voix un peu trop aiguë, mais c'est ça peut-être une voix avec un souffle, et c'est cette imperfection qui va nous émouvoir, puisque
c'est ce qui la caractérise, cette voix.
Oui, puisqu'elle caractérise aussi la fragilité, et que cette notion de danger, en fait, on a besoin de cette notion de danger pour pouvoir apprécier. C'est la notion de danger qui donne l'émotion. Puisque quand on entend quelqu'un chanter, qui se donne, elle prend des risques, comme un funambule qui va prendre des risques. Et c'est cette notion de peur du vide et de cette recherche d'équilibre où d'un moment à l'autre, on peut perdre la vie, où on peut perdre le fil, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose dont on s'aperçoit au fur et à mesure, puisqu'il faut que l'on vieillit, puisqu'il faut beaucoup de lâcher prise, parce qu'au départ, effectivement, on veut être parfait, on veut trouver l'imperfection, parce qu'on ne peut pas supporter notre imperfection. Et au bout du compte, on s'aperçoit que ce qu'aiment les autres, c'est ça chez nous.
Mais il faudrait quand même avoir la perfection technique, mais pouvoir s'en évader, c'est ça, quand on est musicien ?
C'est très complexe, parce que la perfection technique est l'ennemi, justement, de l'émotion. Et pourtant, il faut l'avoir. Il faut pouvoir être parfait techniquement, mais au bout du compte, quand j'improvise, par exemple, et quand quelqu'un va improviser, ce sont ces silences, ce sont ces hésitations, ce sont ces petites défaillances, ce sont ces
capacités de rattrapage.
Surtout dans l'improvisation, on prépare pas, donc il faut tout de suite anticiper et tout de suite savoir si on est dans l'erreur et rattraper cette erreur et en faire quelque chose de beau et en tout cas de fort émotionnellement. Alors ça, c'est vraiment un travail spécifique. C'est pour ça que j'adore l'improvisation, parce que c'est un langage. C'est comme si on inventait des textes. C'est comme si on a inventé des mots et qu'on a inventé, donc on parlait d'un sentiment, par exemple, et c'est vrai que je fais travailler ça à mes élèves très souvent. Je les mets dans des rôles de comédiens et je leur donne des personnages, donc à travers une improvisation qui est structurée, puisqu'elle doit se faire sur un concept harmonique et un concept rythmique précis, mais ils doivent s'exprimer dans différents caractères. Donc j'exprime la timidité, la colère, et c'est étonnant de voir d'ailleurs comment ils vont traduire ce sentiment à travers un langage musical.
Et tout ça, c'est en fait votre propre expérience qui vous a fait dire que certains passages sont importants pour quelqu'un qui apprend la musique, enfin, forcément.
Oui, parce que qu'est-ce que la musique la musique, ce n'est pas, ce ne sont pas des notes qui s'enfilent comme des perles uniquement. Je veux dire, derrière chaque note, il doit y avoir une pensée cachée. Il doit y avoir un sentiment, et en plus c'est tellement subjectif qu'on peut, on peut aller au-delà des mots, et c'est notre force, c'est la force de la musique. C'est que, je dis dans le livre d'ailleurs, on peut traduire des sentiments extrêmement puissants, des sentiments terribles même parfois, mais les mots ne sont pas là pour, les mots ne sont pas là en fait pour donner un caractère définitif, c'est-à-dire que c'est subjectif et chacun va entendre la musique comme il à travers sa personnalité et à sa propre histoire. Mais c'est vrai qu'un musicien peut penser à des choses terribles en jouant, extrêmement violentes par exemple, ou extrêmement sensibles. Il faut laisser aussi l'inconscient jouer. Je crois que nous, on n'est pas assez fort dans notre part consciente pour contrôler. Ça a un rapport beaucoup plus à la psychologie qu'à l'art musical en lui-même.
C'est toute une éducation personnelle et oui.
Oui, oui, ce sont des expériences et ce sont des échecs, ce sont des stades. Et je dis à chaque âge, sa manière de s'exprimer, sa manière de penser, et il faut pas anticiper. Je crois que ce sont ces expériences, ces échecs, ces doutes, ces cicatrices qui font que, eh bien, on lâche prise à un moment, et c'est lorsqu'on lâche prise que la plupart du temps les choses viennent à nous.
J'ai l'impression, Didier Lockwood, que vous êtes resté fidèle à tout ce que vous, ou presque tout ce que vos parents vous ont transmis dans l'enfance. C'est-à-dire que non seulement vous êtes musicien, mais vous êtes peintre. Le violon, ben, vous l'avez toujours gardé, comme votre père, votre frère. Cette enfance avec c'était un frère aîné, mais vous avez été quasi jumeaux dans votre apprentissage de la musique. Vous vous êtes un peu éloigné de temps en temps, mais retrouvé. J'ai l'impression que toutes les valeurs qu'on vous a données dans l'enfance, c'était les bonnes pour vous, non ?
Elles étaient, je dirais, exceptionnellement justes. Et c'est vrai que c'est dans ce sens que j'ai énormément de... je remercie mes parents jour après jour. Et je dirais que chaque note que je joue aujourd'hui, chaque note que je compose, ils en font partie parce que j'ai eu une éducation. Et on a eu une éducation extrêmement saine. Et c'est vrai que les enfants et les jeunes générations, je leur souhaite d'avoir des parents comme j'ai eu, puisqu'ils sont toujours là, ils nous accompagnent toujours, et ils ne prennent pas trop de place, et leur amour n'est pas trop lourd, il est juste comme il faut, et je crois que ce respect que je leur porte et le fait qu'ils m'aient donné confiance, puisque quand même à l'âge de 15 ans, ils m'ont laissé partir, alors que j'étais quand même parti pour faire des études correctement brillantes, on va dire. Et puis, au conservatoire, j'étais aussi parti pour faire une carrière classique. Mais ils ont senti que j'avais une volonté de vouloir faire quelque chose de différent, très marginal, puisque devenir jazzman pour un Calaisien, c'était extrêmement osé, et maintes amis de la famille, le directeur du conservatoire ont essayé de dissuader mes parents de me laisser partir, mais ils ont senti chez moi une envie tellement forte, une passion en fait pour cela, qui m'ont fait confiance. Et cette confiance, je l'honorerai toujours.
Donc à 15 ans, vous devenez musicien professionnel et parallèlement, vous allez entrer dans une école. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé à 15 ans.
À 15 ans, je vais retrouver mon frère Francis pendant les vacances, qui venait d'être engagé par un mécène, un de ces derniers personnages qui, qui amoureux des arts et qui était un amoureux spécialement de la musique et qui engageait des jeunes musiciens de jazz pour se faire plaisir et essayer de les aider. Donc il avait il s'était établi à Valoris et donc sur la Côte d'Azur près de Cannes, et j'étais parti avec mes parents pour donc passer quelques jours de vacances avec mon frère là-bas. Et c'était la première fois d'ailleurs que je quittais Calais pour le Grand Sud. Donc c'était non seulement une joie de retrouver mon frère, mais aussi un plaisir immense de découvrir d'autres paysages que les corons et les terrils. Donc c'est vrai que c'était...
Il y avait la plage tout de même à Calais.
Il y avait une magnifique plage, mais disons que pour moi, partir de chez moi, c'était partir à l'aventure et découvrir des choses que je n'avais jamais vues. En tout cas, encore découverte. Et arrivé là-bas, en fait, dès que j'ai commencé à jouer avec mon frère, puisque il y avait des occasions pour jouer, des réceptions que cette personne, Monsieur de la Chaire, et Monsieur et Madame de la Chaire, donc ces richissimes belgio-américains, parce qu'ils étaient américains mais d'origine belge. Donc organiser des fêtes dans lesquelles on pouvait retrouver des grands musiciens qui jouaient notamment au Festival d'Antibes à l'époque, puisque c'était en pleine période du Festival d'Antibes ou de Nice, et puis des gens comme Aznavour, etc., qui passaient, donc qui étaient amis de ce couple. Et un jour, lors d'une de ces fêtes, j'ai joué, et tout de suite, et je le raconte d'ailleurs dans ce livre, eh bien, toute l'audience s'est mise à applaudir. Et puis, monsieur de la Chaire, cet Américain, est venu me voir et m'a dit « Mais il faut absolument que tu restes avec nous et tu vas devenir quelqu'un et je vais être le premier à te lancer dans cette carrière. » Donc, mes parents sont rentrés tout seuls à Calais. On signait des décharges à cette personne pour que je puisse quand même continuer mes études musicales. Et mon père m'avait dit, tu me ramèneras un concerto de violon tous les 3 mois, tous les trimestres, je veux un nouveau concerto de violon. Donc je me suis tenu à respecter cet engagement. Mais c'est vrai que le fait de partir si tôt a fait que je me suis engagé directement dans cette carrière. C'était d'autant plus important à l'époque qu'il n'y avait pas d'école de jazz, il n'y avait pas d'environnement qui était réservé à cette musique, il fallait se débrouiller. Donc j'ai fait mes armes tout seul. Et c'est là où je reviens sur le culte un peu de l'erreur, c'est que je n'ai pas appris à travers des méthodes généralistes de la musique, d'improvisation. Non, je me suis vraiment fait une personnalité à travers mes erreurs, mes doutes et mes recherches en écoutant plein de musiciens, en essayant d'imiter Jean-Luc Ponty, naturellement, qui était celui qui avait fait que j'avais voulu faire du violon de jazz, puisque quand je l'avais découvert, lorsque j'avais 14 ans, 13-14 ans, j'étais devenu un fou de ce violoniste et j'avais décidé de devenir violoniste de jazz. Donc tout ça, toutes ces années, 15, 16, 17 ans, même lorsque je suis rentré à Paris à 17 ans et j'ai terminé mes études donc à l'École normale supérieure de musique de Paris avec Maître Benedetti, grand violoniste et grand professeur. Et là, eh bien, ça a été le grand coup de chance et le coup, je dirais pas du hasard, mais encore une fois, un train qui passait et qu'il fallait prendre, c'était Magma et Christian Vander.
Alors, avant d'arriver à Magma, quand vous étiez donc dans le sud, là, à Valoris, c'était une succession de concerts. Comment ça se passait?
Non, pas du tout, non. C'était des répétitions, on montait des groupes, on défaisait les groupes, on enregistrait des disques. Et d'ailleurs, ce monsieur a toujours des bandes de mes premiers enregistrements qui sont jamais sortis. Et donc, c'était simplement...
C'était une école privée, presque.
C'était une école privée, ce monsieur se faisait plaisir. Il essayait de nous trouver des concerts, mais il n'était pas très doué dans cette activité. Et puis les disques, bien, il avait du mal à les sortir aussi, puisque à l'époque, c'était pas facile non plus. Puis on n'était pas connus. Mais disons que ça nous a servi à faire des rencontres extraordinaires. Et puis, à travailler en groupe. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'être en fait tout à fait versé dans ce domaine. Et on répétait tous les jours. Et on enregistrait, on faisait aussi ce qu'on appelait des musiques d'ambiance. C'est que ce monsieur vendait des cassettes et des appareils et des bandes de musique d'ambiance, de musique d'illustration. Donc j'ai composé, je ne sais pas, peut-être 200 petits morceaux de musique d'ambiance. Et ça m'a fait travailler la composition et surtout l'efficacité mélodique, puisqu'il fallait trouver des mélodies efficaces. Pour que en fait, ça servait pour les supermarchés. Mais c'était quelque chose, un très très bon exercice.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Monette Berthommier avec Didier Lockwood, enregistrée en 2007. À voix nue, réalisation Dominique Costa, Nathalie Salle, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr. Thank you.